Voilà, bonjour à chacun, chacune. Alors, pour ceux qui suivent les annonces du dimanche matin, c'est pas moi qui devais être derrière le micro, mais celui qui devait l'être ne peut pas le faire ce matin, pour cause de maladie. Donc, j'ai demandé la grâce de Dieu pour le remplacer ce matin. Est-ce que vous croyez que vous avez un Dieu grand ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on prépare le culte, les présidents, ceux qui apportent la parole, on se demande comment les choses vont s'emboîter. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne s'appelle pas les uns les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, Dieu met tout en place pour que le culte soit une unité et pas une diversité. Et vous allez comprendre. Une nouvelle espérance. Alors j'aurais pu intituler le message « Espérance ». Espérance, c'est ce que nous avons tous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oula ! Vous êtes désespérés ? Eh bien, il y a une nouvelle espérance. Et on va lire tout à l'heure, dans Éphésiens 5, les versets 8, les versets 10 et les versets 14. Mais avant de les lire, je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé il y a environ 7 ans aux États-Unis, le 2 octobre 2006. Un homme du nom de Charles Roberts est entré dans une école maternelle chrétienne, West Nickel Mine School, en Pennsylvanie. Et là, dans cette école, il a tué 5 jeunes filles de 6 à 13 ans. Après son acte, il s'est suicidé. Lui et sa famille, et notez bien, fréquentaient une église évangélique. La communauté touchée par le meurtre s'est rendue auprès de l'épouse du meurtrier pour lui affirmer le pardon et lui ont apporté de la nourriture et de l'aide pour elle et ses enfants. Ce qui était intéressant, c'est qu'on fait les journaux avec cette affaire. Les journaux auraient pu, ça aurait été les journaux français, ils auraient marqué « tragédie ». Et nos journaux français l'ont titré comme ça. Mais les journaux américains et le journal local en Pennsylvanie a mis une grosse manchette « miracle » de Nickel Mines. Pourquoi « miracle » ? Parce qu'une, plutôt que d'engendrer la haine, ce meurtre coûteux, vous imaginez ceux qui ont perdu leurs enfants, faisaient partie de cette communauté et se sont rendus chez la famille du tueur pour lui afficher le pardon. Waouh ! On a du mal à pardonner quelqu'un qui nous a dit un mot plus haut que l'autre. On a du mal à pardonner à quelqu'un qui ne répond pas à nos attentes. Cette communauté a pris sur elle de pardonner à celui qui avait éliminé leurs enfants. Frères et sœurs, je tremble en lisant ça. Est-ce que nous ferions de même ? Est-ce que notre niveau de pardon s'arrête dans le niveau de péché? Il y a le péché, le petit péché, le péché un peu plus important, et là, le péché impardonnable. Ça, jamais. Depuis septembre 2006, l'église protestante évangélique Le Phare de Vigneux a commencé à se rassembler ici. Elle se veut porteuse d'un message de lumière. On a mis un phare à l'angle du mur. De pardon, de grâce, de réconciliation, de restauration. Non pas par nos forces, mes amis, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est mort. Pour que nous soyons porteurs de grâce, de pardon. Et on a du mal. Béni soit la sœur qui a partagé. Ce sont nos luttes, n'est-ce pas? Nous nous arrêtons. Réconciliation. Nous sommes, la Bible dit, par la bouche de Paul, nous sommes agents de réconciliation. On n'est pas agents de division. On n'est pas agents de tuerie. Ce monsieur Robert allait à l'église. Il écoutait dimanche après dimanche les messages venant du pupitre. Peut-être même chantait-il dans la chorale, j'en sais rien. Mais un jour, il est rentré dans une école et il a tué 5 personnes. Venir à l'église ne suffit pas, cher ami. Venir à l'église nous permet d'entendre le message de Dieu. Mais après, une fois qu'on a franchi la porte, qui sommes-nous ? Remplis d'amertume, remplis de rancœur, évitant les chrétiens sur les trottoirs. Charles Robest pensait écrire la note finale. Bien au contraire, cette communauté a décidé d'en faire un moyen de mise en pratique de leur foi en Christ. Ils ont détruit le bâtiment de l'école. Ils ont rebâti plus loin une autre école qu'ils ont appelée l'école de la nouvelle espérance. Quelle image ! Quelle image ! L'image qui est représentée là, c'est que notre péché, Dieu l'a enlevé. Dieu a payé pour ça, il a payé le juste prix. Est-ce que notre église évangélique Le Phare répond à ces espérances? Est-ce qu'ensemble, puisque c'est nous l'Église, nous sommes agents de réconciliation, de paix, de pardon, d'amour? Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul défie l'Église, challenge l'Église, encourage l'Église à être un. Parce qu'il y a les chrétiens juifs, il y a les chrétiens non-juifs. Et les uns pensent avoir plus de valeur que les autres. Alors Paul leur dit, non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Autrefois, à tous, il dit, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Marchez donc comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière, c'est pour cela qu'il est dit « réveille-toi ». On a besoin de temps en temps d'être secoué, n'est-ce pas ? De nous rappeler, mais quel est l'objet de l'Église ? Pourquoi sommes-nous là ? Pour rendre témoignage. Pour amener des frères, des sœurs à se réconcilier, d'abord avec Christ, et ensuite entre eux. C'est ça l'espérance. Nous avons un Dieu patient, n'est-ce pas ? Un Dieu qui nous empêche de dormir de temps en temps en disant « Hé !» qui appuie là où ça fait mal. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, et que vous êtes fait mal quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez chez le médecin, il appuie dessus très fort, il fait « ça fait mal ? Oh oui !» Ben c'est pour ça que je suis venu vous voir. Non ? Et ce qui est intéressant, c'est que notre Dieu, lui, en mettant le doigt là où ça fait mal, il dit « mais là, j'ai ce qu'il faut pour ça. J'ai déjà payé. » Paul dans Éphésiens nous instruit sur la conduite à tenir dans le monde. Il recommande de ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, on sait faire, mes amis. Nous, on l'a lu tout à l'heure, nous étions membres. Nous le pratiquions tranquillement. Qui apprend à nos enfants à faire des bêtises ? Personne. Ils savent le faire tout seuls. Qui leur apprend le bien ? C'est nous. Qui leur apprend à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas voler, à ne pas taper ? Notre Père Céleste nous montre ce qu'il faut faire. Et il dit, ce que vous faisiez avant, c'est plus comme ça qu'il faut agir. Maintenant, vous êtes lumière. Éphésiens 5, 1 dit, imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Faisons-nous honte à notre Père. Vous savez que même quand on lui fait honte, il vient vers nous et nous dit, mon fils, je t'aime. Quel parent pourrait dire à son enfant, tu as fait tellement de bêtises, je ne veux plus jamais te voir. C'est nos enfants. Bien, mes amis, il en est de même avec le Père. Si à chaque fois qu'on faisait des bêtises, on n'avait plus le droit de paraître dans la grâce de Dieu, alors ce matin, on serait tous au lit, à la pêche ou en train de faire autre chose. Vous êtes des enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le, dit Parole de vie. Imitez-le. Ne restez pas juste avec l'idée, faites-le. Au verset 2, il dit « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Un sacrifice qui plaît. Un sacrifice de bonne odeur, c'est un sacrifice qui plaît. On peut offrir des sacrifices qui ne servent à rien. Si on lit les Malachies, hein, il dit « Vous devriez m'offrir des belles bêtes et en fait vous m'offrez tout ce que vous avez de côté. » Tout ce que vous alliez jeter, vous me l'offrez, c'est gentil. Mais c'est pas ça que je vous demande. C'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est vous. C'est votre personne. Parce que moi, je veux le bien pour vous. Je vous ai donné ma lumière. Qui aujourd'hui peut dire que Dieu ne lui a pas donné la vie ? Qui aujourd'hui peut dire que ce qu'il a, il l'a eu de ses mains ? C'est Dieu qui lui donne. Marchez dans la charité, dans l'amour, hein, dans les versions secondes, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et regardez bien, et qui s'est livré. C'est l'amour sacrificiel, c'est pas l'amour parce que tu me fais des bons plats, je t'aime. Parce que tu me rends de bons services, je t'aime. C'est l'amour sacrifice. C'est l'amour d'un mari pour sa femme. C'est l'amour d'un père pour ses enfants. Jésus nous a fait le modèle, nous a lissé le modèle. Il a été jusqu'à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de garder sa vie et de rien faire pour les autres. Sa nouvelle version. Que de donner sa vie pour les autres. On est dans une société de récepteurs. Nous devons basculer dans cette vie d'émetteur. Parce que nous avons reçu de Christ. Au verset 3 d'Éphésiens 5, il est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il en convient à dessein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'église était saine et que tout le monde était bien? Non, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, et nous péchons. Mais Dieu nous laisse, nous donne cette grâce de changer, de rectifier. Affermir les églises, c'était le plan de Paul, mais parce qu'il y avait tellement de difficultés dans les églises. Alors 20 siècles après, nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas ces hommes et ces femmes parfaits. Au club de jeunes, hier soir, la question a été posée, quel est un de vos plus grands défauts? C'est peut-être de reconnaître que je n'en ai peut-être aucun. C'est ça notre défaut. Moi, des défauts, mais j'en ai pas! Bien sûr que si. Parce que nous sommes faibles. Parce que notre travail sur cette terre, c'est d'être, de sanctifier, un travail de sanctification. Dieu nous donne les moyens. Mais c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Ça veut dire aller plus loin. Ça veut dire, Seigneur, cette nouvelle nature, cette nouvelle humanité que tu me donnes, j'aimerais la faire grandir avec toi et avec les autres. Au verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plus haut, plutôt des actions de grâce. On en a parlé les deux derniers dimanches. Ce gouvernail, le gouvernail de notre vie, notre langue. Vous savez que sur les gros bateaux, hein, c'est un tout petit gouvernail. Hein, le Belém, un des plus gros bateaux au monde, voilier en tout cas. Pas en tant que bateau, mais en tant que voilier, il a un tout petit gouvernail. Et notre vie, souvent, on la fait bouger avec notre langue. Hein. Elle diffuse l'eau douce et l'eau amère. Bénédiction, malédiction. Je ne vais pas revenir sur les deux derniers messages. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible nous avertit que le diable vient comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il dit quoi ? Il dit « Ouvrez-lui la porte, laissez-le rentrer. » Qu'est-ce que vous faites ? Imaginez, en rentrant chez vous, il y a un lion devant vos portes. Pas celui du Crédit Lyonnais, hein ? Vous allez ouvrir la porte, mais allez-y, monsieur le lion. Mais le diable, il est plus rusé que ça. Il n'est pas un gros animal avec des dents comme ça, là. Mais il est avec un bouquet de fleurs à la main. Et il dit, je peux rentrer? Mais bien sûr. Mais non, tout va bien. Tout est en contrôle. Oui, personne ne te voit. Qui saura ça? Personne. Et une fois qu'on est dedans, on est piégé. Mais on n'est pas piégé à vie, on peut sortir de là. Parce que notre Dieu nous dit, mais je suis à ton aide. Je suis là. Tu veux de l'aide? Oui. Alors je vais t'aider. Dieu ne condamne pas. Marchez. Ephésiens 5, 8, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez. Être assis, marchez, tenir ferme. Très bon livre de Watchman Nee, qui n'existe, je crois qu'il n'est plus imprimé. Les chrétiens étaient autrefois ténèbres, mais par la grâce de Dieu, l'Église a été appelée à la lumière. La vocation des croyants est donc de vivre en enfant de lumière, c'est-à-dire loyaux à la place qu'ils tiennent dans la famille de Dieu. Nous avons des frères, des sœurs, Dieu nous a donné une nouvelle famille, pour qui il a payé très, très, très cher, qui sont plus précieux que nous, parce qu'il dit de considérer leurs intérêts comme étant supérieurs aux nôtres. L'espoir de voir un groupe qui avance, l'espoir de voir l'Esprit Saint qui prend cette place, qui dégage tous les côtés. L'espérance de voir Christ glorifié dans notre vie, des frères, des sœurs qui mettent leur vie en règle. Il a de la joie dans le ciel à chaque fois qu'un pécheur se repent. Quelle victoire ! 1 Pierre 2, 9, en démonstration. Vous par contre, ou vous au contraire, suivant les traductions, vous êtes une lignée élue, une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce, c'est des gens qui ont un ministère, une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Ce qui est surprenant, c'est que quand nous témoignons, voilà comment je suis venu à Christ. Voilà comment je me suis converti. Pourquoi faire ? Bah, pour aller à l'église tous les dimanches matin. Ah bon ? Non. Pour annoncer les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. La question à savoir, mais comment t'as réussi à arriver là ? Toi qui étais tellement mauvais. Toi, mais attends, on n'imaginait pas qu'un jour, bah oui, comment t'as fait ? C'est Dieu qui l'a fait. C'est la grâce de Dieu qui est venue me chercher là. Oh, j'étais pas meilleur que les autres, même certainement pire que les autres. Qui aurait cru que l'apôtre Paul, un jour, serait un annonceur de l'évangile, un pilier, appelé des ténèbres à son admirable lumière. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le jour avance. Vous savez, ce qui est intéressant, on a beaucoup de jeunes là qui commencent à rentrer dans les sociétés. Alors si on leur disait, quel est votre plan de retraite, ils feraient... Et puis un jour, ils vont se réveiller. Ils vont dire, tiens, j'ai quel âge là? 55 ans, 60 ans, oula, mais le plan de retraite, j'en suis pas occupé. Et notre vie terrestre, notre pèlerinage terrestre, il va très vite, mes amis. Et ce pèlerinage terrestre, il est fait pour que nous rendions témoignage, pour que nous parlions de celui qui nous a attirés là et qui nous a préparé une place. C'est pas juste attendre cette place. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons, ne perdons pas notre temps. La vie nous égare, n'est-ce pas ? Nous offre tellement de choses à faire. Nous avons besoin de faire le tri. 1 Thessaloniciens 5:5 dit « Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. » La nuit, ça veut dire ces choses qui se font cachées. Hein, la nuit, c'est la manifestation des choses qui ne sont pas belles, des choses qui ne sont pas nommables, des choses où on ne nous voit pas. Hein, y a un lecteur DVD qui veut travailler, mais ce n'est pas le moment. Alors, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que c'est si facile que ça d'être enfant de lumière? Est-ce que c'est si facile que ça que d'annoncer l'évangile dans notre société qui n'en veut pas? Où on dit même que c'est dangereux. J'ai rencontré beaucoup de personnes, hein, des autorités locales, nationales, qui disent « Monsieur le pasteur, vous êtes un homme dangereux. » Ah bon ? Dangereux ? Oui, parce qu'on ne sait pas bien ce que vous dites. Ben, venez voir. C'est ouvert à tous. Un jour, il y a un préfet de région, on était quelques pasteurs, et préfet de région, il vient nous voir pour faire connaissance avec les évangéliques. Alors, ce qui m'a surpris, c'était, j'étais jeune pasteur, il y avait le pasteur Alfred Kopp, qui lui avait un peu roulé avant moi. Et alors, le préfet, il rentre, et puis il nous fait tout un discours, il dit, et juste, il se retourne, il dit, ben, priez pour moi, puisque vous êtes des pasteurs. Et juste là, il y a le pasteur Kopp, il met sa main dessus, il fait, attendez alors, vous avez demandé qu'on prie, on va prier. Et là, le préfet, tout de suite là, il avait saisi l'opportunité. On était là pour prier pour lui, pas simplement pour lui parler qui nous étions, mais qui était au-dessus de nous et qui dirigeait la vie. Et lui, il a des comptes à rendre. Et j'ai trouvé, de moi-même, au début, j'aurais jamais fait. Maintenant, je le fais avec un peu plus de souplesse. Mais c'est vrai que ce jour-là, j'aurais bien laissé partir le préfet. Est-ce que nous osons parler de celui qui nous aime, de confier ceux qui sont autour de nous? C'est facile de demander à vivre comme Christ. Mais c'est difficile à répondre et encore plus dur à achever, n'est-ce pas? Ce que veut Jésus, c'est notre vie. La Bible dit, c'est que nous soyons comme lui. J'ai fait ces choses afin que vous les pratiquiez. Nous sommes à son image, co-héritiers, co-ouvriers, collaborateurs. Collaborateur, ça ne veut pas dire laborateur tout seul. Le mot co, ça amène une autre personne. Vous vous rappelez, Élie, je suis resté, moi, seul. Et de temps en temps, on dit, mais je suis tout seul. Non, Dieu est là, déjà. Et puis, il y a d'autres personnes autour de toi. Dans Romains 8, 29, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés ou prédestinés d'avance, prédestiné dans certaines versions, à être configuré à l'image de son fils. Vous savez, configuré, c'est pas juste de l'informatique. Quelle configuration tu as? Windows, tant, Windows... Moi, je suis pas un expert. Hein. Il est là, l'expert. Configuré à son image. Fait pour fonctionner à son image. Pour qu'il soit le premier-né d'une multitude. J'ai ici un peuple nombreux. Mes amis, il y a de l'espérance. Dieu change nos vies. Dieu nous transforme. Si on le laisse faire. De Pierre 1,3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous a donné tout. Il nous a appelés à sa gloire. Il nous assure, il nous sécurise en nous donnant les plus précieuses promesses. Pourquoi ? Afin que par elles, vous deveniez participants, actifs. Chrétien actif, c'est un pléonasme. Un pléonasme, c'est deux mots, utiliser deux mots l'un à côté de l'autre qui veut dire la même chose. 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est pas demain. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Le jour où on le rencontrera. Est-ce que nous avons sécurisé notre avenir? Assuré notre présent? Évacué notre passé? Oh, le passé, on en parle, hein? On en parle. Mais le présent. Avez-vous envisagé votre vie comme un présent? Il y en a certains, c'est plutôt une galère. Un truc que j'aimerais bien qu'il s'arrête. Hier, c'est de l'histoire. Demain, je recommence. Hier, c'est de l'histoire qu'on ne peut plus changer. Demain, c'est un mystère. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. C'est pas de moi, hein. J'ai trouvé cette phrase tellement jolie. Parce qu'en Christ, hier, c'est de l'histoire. L'histoire dans laquelle Dieu est venu nous chercher. C'est notre histoire. Demain, Dieu a fait de grandes choses pour nous, mais c'est un mystère encore. Et aujourd'hui, c'est un cadeau parce qu'on l'appelle présent. Imaginons que notre vie, comment on pourrait la changer si finalement on la vivait comme un cadeau que Dieu nous donne. À chaque fois qu'on se lève, notre sœur a partagé ce matin, elle a dit, moi j'attends pas d'avoir un grand événement pour dire merci Seigneur. Combien de gens n'ont pas de logement? Combien de gens vivent dans la rue? Vous qui voyagez tous les jours, dans Paris, autour de Paris. Avant de sortir de nos frontières, mes amis. Combien de gens vivent dans la rue? N'ont pas de toit, n'ont pas de maison, n'ont pas de nourriture. Mais nous avons un Dieu grand, n'est-ce pas? Ne gâchons pas ce présent. Ne le mettons pas de côté. Jésus dit dans Jean 13, « Car je vous ai donné l'exemple pour que vous aussi vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. » J'ai fait comme moi, c'est ton tour. C'est ton tour. J'ai rencontré, je crois que je vous l'ai dit, c'est là, mais en tout cas j'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu dans les 30 années depuis que je suis venu au Christ. Et une fois j'ai rencontré un grand serviteur de Dieu qui était dans ses derniers jours. Et lorsque je lui ai fait la visite, j'étais assez peiné de le voir là, sur son lit, prêt à aller rejoindre son Seigneur. Et ce qui me faisait un peu de mal, c'est qu'il était plus actif, qu'il parlait plus, qu'il avait tellement de mal à s'exprimer. Et il m'a dit, Jean-Claude, le drapeau, c'est toi qui l'as maintenant. C'est ton tour. La génération qui était dans le désert est morte parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas écouté, La nouvelle génération, celle qui est rentrée dans le pays de Canaan avec Josué, a dû être enseignée par Moïse à la fin pour leur dire ne commettez pas les mêmes péchés. Dans Deutéronome 6, il est dit que nous devons transmettre, on l'a étudié vendredi, à la nouvelle génération, à nos enfants, à ceux qui sont là, les vérités de Christ, afin qu'elles subsistent. C'est possible. Pas simplement parce que nous le voulons, parce que c'est le mandat que Christ nous a laissé. Paul exhorte, il dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, on l'a lu tout à l'heure, mais maintenant vous êtes, c'est pas vous serez, vous êtes lumière. » Alors Jésus prie, hein, Jésus a dit, Paul a exhorté, et Jésus a prié, Matthieu 26, il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, » la prière qu'on a du mal à faire, « non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Nos prières, c'est souvent, « Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin, donne-moi ce que j'ai envie, enlève l'épreuve. » Et c'est vrai que prier... Seigneur, comme tu veux, c'est risqué, n'est-ce pas? Parce que si on lui dit, fais ce que tu veux, et qu'il le fait, on va crier. Non? Mais c'est pourtant la volonté du Père. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que nous manquons de foi? Parfois on dit, hein. Vous rappelez les disciples dans Matthieu 6 qui s'inquiétaient. Et Jésus leur a dit, Jean 2, peu de foi. Jean de peu de foi. Pourquoi vous inquiétez-vous? Et j'ai trouvé cette anecdote du pasteur Jean Bigzano, hein, en Californie, qui a dit « Vivre exige beaucoup de foi. Par exemple, vous rendez chez un médecin dont vous ne pouvez pas prononcer le nom. Il vous tend une ordonnance que vous ne pouvez même pas déchiffrer. Vous la présentez à un pharmacien que vous n'avez jamais rencontré. Il vous vend un médicament qui vous est totalement inconnu et vous l'avalez. » C'est pas de la foi, ça? C'est pas de la foi? Un médecin que vous ne connaissez pas, il écrit des choses, vous ne savez même pas ce qu'il a écrit. Il vous donne un médicament que vous ne connaissez pas, mais vous allez aller mieux! Peut-être. Et vous le prenez au cas où. Et vous dites que vous manquez de foi. On a de la foi. Mais il faut la mettre là où il faut, n'est-ce pas? Quant à Jésus, vous savez qui il est. Il s'est chargé lui-même de notre maladie. J'ai marqué là de ma maladie. L'ordonnance, elle est lisible. Elle a été traduite dans ma langue pour que je puisse la lire. Je ne dois pas passer par l'hébreu, je ne dois pas passer par le grec, je ne dois pas passer par le latin. Il a pris le médicament lui-même et il est vivant. Il m'a communiqué sa vie. Ma foi n'est pas très grande de dire « je peux ». Non ? C'est moins de foi qu'avec l'ordonnance de mon médecin. Vous ne croyez pas ? Et là, ça m'assure non pas juste d'avoir moins mal à l'estomac, moins mal à la tête, mais d'avoir mon éternité d'assurer. Waouh ! C'est pas de l'espérance, hein? Il n'y a pas un meilleur moyen de mieux vivre ensemble? De mieux vivre notre foi, de progresser ensemble? Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble? Non? Blaise Pascal, un Clermontois mathématicien, a dit: sans l'Écriture qui n'est que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien, nous voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Il a écrit ça du sommet du Puy-de-Dôme, 464 mètres, à côté de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si c'est l'air de Clermont qui l'avait inspiré. Les hommes prennent souvent leur imagination pour leur cœur, et ils croient être convertis dès qu'ils pensent à le faire. Ah, je le ferais bien ça. Vous savez, moi j'ai de la famille souvent à qui je témoigne, et lors d'une célébration, c'était les 50 ans de l'anniversaire de mes parents, avant que mon papa décède, J'avais partagé ma foi, j'avais même fait, mon papa m'avait même laissé l'occasion de prêcher. Et à la fin, il y a un de mes cousins qui est venu et qui m'a dit, tu vois, moi je crois en rien, mais si je croyais, je croirais comme toi. J'ai dit, bah avec ça, tu vas pas aller loin. Et on a parlé un moment, mais il croit toujours pas comme moi. C'est intéressant, non? Des fois, on a l'impression qu'on y est, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ah, l'ordinateur, lui, il décide qu'il s'arrête. Victor Hugo a dit, hein, il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, c'est la Bible. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Je ne sais pas si je le croiserai au ciel, lui. James Irwin, c'était un astronaute qui a roulé dans le LEM, là, c'est pour les gens de mon âge là, qui se sont levés en 69. La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la Terre. Un grand pas pour l'humanité. C'est Jésus-Christ qui a marché sur la Terre. C'est pas James Irwin qui a roulé dans le LEM sur la Lune. Et James Irwin, maintenant, il est auprès du Seigneur. Pratiquement, mes amis, nous étions ténèbres, comme Charles Roberts. Nous fréquentons une église comme lui. Nous avons des blessures, peut-être intérieures, non réglées, comme lui. Et nous pourrions faire comme lui. Et parfois, on n'a pas besoin d'une arme pour tuer. Je l'ai dit dans les deux derniers messages. Mais nous avons la possibilité de faire comme les Amish, comme ces chrétiens, qui ont décidé de faire comme Dieu le voulait, de donner un nouvel espoir à leur ville. Question, est-ce que nous voulons que l'Église Le Phare soit cet espoir de Vigneux? Parce que ce n'est pas nous que nous représentons, mais c'est Jésus-Christ. C'est sa parole, c'est sa vie. On a du mal, on a des différences. Mais pouvons-nous le vivre ensemble? Pouvons-nous vivre nos différences ensemble pour que Dieu soit glorifié? Pour que Dieu soit honoré entre nous? Pour que le pardon prenne place? Pour que l'amour prenne place? Pour que la miséricorde prenne place? Alors j'ai refait un pléonasme pour terminer, pratiquant actif. C'est comme un joueur qui reste assis. Il ne peut pas. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là même sera heureux. Alors la question que je nous pose aujourd'hui, il y a deux questions. Est-ce que nous voulons que la lumière brille sur Vigneux et sa région? Et la question qui va avec, voulons-nous être heureux? Parce que c'est pas moi qui le dis là. C'est Jésus qui le promet, c'est sa promesse. On prie? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole qui nous fait du bien. Pour ces promesses merveilleuses que tu nous fais. Seigneur, nous avons du mal à progresser. Nous avons du mal à aimer. Nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à contrôler notre langue, comme tu nous le demandes, comme Jacques nous l'a demandé. Mais Seigneur, notre intention, c'est de te plaire, c'est d'être comme toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous arrêter et te supplier, Père, de nous aider. De nous aider à laisser le pardon toucher profondément notre cœur. À ce que le Saint-Esprit nous aide aussi à contrôler cette langue qui parfois fait tellement de ravages. Nous voulons te demander de pouvoir avoir des yeux miséricordieux pour ceux qui ont des difficultés, de la patience pour ceux qui sont longs à comprendre, de la grâce pour ceux qui sont faibles. Seigneur, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour aimer. Nous sommes là pour nous soutenir, pour être ensemble des hommes, des femmes qui te louent, qui t'honorent, qui rendent témoignage et qui montrent à la société qui est autour de nous que tu es ce Dieu qui tient parole. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour ceux et celles dont la vie est difficile, qui peut-être ont dans leur bouche « ma vie est une galère » et qui ont du mal à voir ce que toi tu fais dans leur vie. Ce que nous, leurs frères et sœurs, nous pourrions faire pour les aider, pour leur partager ce que toi tu nous donnes. Alors mon premier appel ce matin, il est à l'instar de ceux qui peut-être justement ont ces mots dans leur bouche. Ma vie, c'est une galère. Je n'arrive pas, j'ai pas de travail, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Je prie. Et Dieu ne répond pas. Si c'est votre cas ce matin, si vous avez l'impression que c'est tellement difficile, Dieu veut ce matin vous aider. Il vous présente sa famille, elle est ici. Lui, il a payé pour que vous ayez une vie heureuse. Alors s'il y a un frère, une sœur, quelqu'un qui ce matin aimerait sortir de cette galère, que Dieu puisse lui porter le bon médicament, la bonne solution, qu'il puisse incliner le cœur de celui qui a le doigt sur mon dossier, qu'il puisse sortir de sa main tout ce que nous avons besoin. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ça ce matin, je l'invite à juste lever la main pour que je prie pour lui ou pour elle. Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, oui, oui. Dieu est un Dieu saint. On l'a vu ce matin. Il nous fait de merveilleuses promesses. Il a dit qu'il serait là. C'est peut-être pas notre agenda, notre jour, notre heure, mais il va le faire parce que lui l'a promis. Et puis peut-être, vous êtes ici ce matin et vous dites, mais c'est pas facile, pas si facile que ça d'être saint, c'est pas si facile que ça de tenir ma langue. Et puis, comme notre sœur l'a dit ce matin, c'est tellement difficile de pardonner à ceux qui me font mal. Et j'ai besoin. Nous avons besoin de ce pardon les uns les autres. Oui, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse. Dieu est un Dieu saint, mes amis. Nous avons besoin de nous arrêter de temps en temps et de dire, Seigneur, aide-nous. Aide ta communauté ici. Nous ne pouvons pas vivre en nous criant les uns sur les autres. Nous ne pouvons pas vivre en nous haïssant les uns les autres. Nous sommes enfants de lumière. Et nous voulons te représenter dignement. Père Céleste, je veux te prier pour tous ceux qui ont levé la main. Tu vois, Seigneur, ce matin, il y en a pas mal. Beaucoup de frères et sœurs qui peut-être ont l'impression que leur vie est une galère, qui ne voient pas l'aboutissement de leur prière, qui ne voient pas arriver les choses qui les aideraient à vivre. Seigneur, toi tu sais exactement pourquoi tu les fais attendre. L'apôtre Paul a dit que toutes choses concouraient au bien, mais des fois on a tellement de mal à voir que ce sont des choses bonnes. Seigneur, je te prie pour ces amis. Que tu puisses vraiment les aider et surtout nous mettre à cœur à nous qui sommes autour, de pouvoir les aider, de pouvoir leur porter ce qu'ils ont besoin, parce que tu nous l'as peut-être donné à nous. Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux qui ont du mal à contrôler leur langue, ceux qui ont du mal à pardonner et à vivre avec ce pardon. Seigneur, tu vois ceux qui ont levé la main, tu vois ce qui est dans le secret des cœurs, tu vois les conflits, les défaites. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ta victoire sur nos vies, pour que nous puissions proclamer cette victoire au monde. Alors merci pour ce message, merci parce que c'est toi qui nous l'as donné. Et Seigneur, je te demande simplement que nous puissions le pratiquer ensemble, afin que tu sois honoré. Au nom de Jésus. Amen.